Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Jeudi 19 février 2026, il est 6h avant minuit, 36 jours consécutifs de flotte. On est en train de se taper la plus longue période de pluie ininterrompue depuis juste 1959. Moi qui accueille une Parisienne ce week-end, je ne suis pas prête de redorer l'image pluvieuse de la Bretagne. Bref, on ira en Bruxelles et en dessous la pluie, hein, tant pis. Tout de suite, le flash d'Ulrich. On t'écoute, Ulrich.
Il a échangé sa couronne contre des menottes. Andrew, prince déchu d'Angleterre, a été arrêté au jus. Le frère du roi Charles III est soupçonné de faute dans l'exercice de ses fonctions sous sa casquette d'émissaire du Royaume-Uni. Pour le commerce international, Andrew aurait transmis des informations potentiellement confidentielles au financier et criminel sexuel Jeffrey Epstein. La police britannique perquisitionne actuellement deux des adresses de l'Est royal pour le roi d'Angleterre. La justice doit, je cite, suivre son cours. Le premier grand procès climatique de l'histoire s'est ouvert ce matin au tribunal judiciaire de Paris. La mairie de Paris ainsi qu'une coalition de 30 ONG accusent le groupe Total Énergie de contribuer à l'aggravation du changement climatique. Lola.
Et oui, c'est historique. Ce jeudi s'ouvre pour la première fois un procès climatique qui a dans le viseur une multinationale et qui en plus lui demande de rendre des comptes à la justice. Sur le banc des accusés, on retrouve Total Énergie, le géant du pétrogaz. Sur le banc d'en face, la mairie de Paris soutenue par 3 collectifs citoyens et écologistes. Notre affaire à tous, France Nature Environnement et Sherpa. La coalition demande à la justice d'obliger la multinationale à aligner sa stratégie sur l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Au cœur de l'affaire, la loi française sur le devoir de vigilance. Cette loi impose depuis 2017 un devoir de vigilance aux grandes entreprises, notamment pour éviter qu'elles ne se défaussent de leurs responsabilités sur leurs sous-traitants, notamment lors de scandales industriels. Les entreprises doivent désormais identifier et prévenir tout au long de la production, y compris chez leurs fournisseurs et à l'étranger, les risques liés aux droits humains, à la santé ou à la sécurité des travailleurs et travailleuses, ainsi qu'à l'environnement. Les accuse Total Énergie de poursuivre le développement de projets pétroliers et gaziers incompatibles avec ses engagements climatiques. Il réclame alors une réduction immédiate de la production d'hydrocarbures sous peine de lourdes astreintes financières. De son côté, Total Énergie conteste ces accusations et affirme respecter ses obligations légales. Ce dernier n'a pas manqué de souligner les efforts déjà mis en place pour réduire ses émissions directes en investissant notamment dans la transition énergétique. Dans un second plan, les associations reprochent au groupe de ne pas mentionner dans son plaidoyer les émissions dites de scope 3. Ces dernières sont provoquées par les consommateurs qui roulent avec l'essence et le gaz du groupe. Le groupe a alors affirmé ne pas être responsable de ces émissions indirectes liées à l'utilisation de ces produits par les consommateurs. Là-dessus, le ministère public s'aligne. Ce dernier s'est contre toute attente rangé du côté de l'entreprise. Il considère que, je cite, « la loi sur le devoir de vigilance ne s'applique pas au changement climatique. Selon lui, l'enjeu est jugé trop global pour relevé d'une seule et même société. Les ONG ont aussitôt contesté cette affirmation. L'avocate de la coalition, maître Françoise Lacambière, rappelle, je cite, que Total Énergie est le principal émetteur de gaz à effet de serre en France et celui qui développe le plus de nouveaux projets partout dans le monde. La journée de demain sera consacrée à l'audition d'experts climatiques et des représentants et représentantes des associations et de Total Énergie. Cette affaire a pour objectif de servir de test quant à l'évaluation de la responsabilité climatique des multinationales. Le résultat de ces audiences pourraient former un précédent juridique majeur en France et en Europe. Elle pourra donner toute légitimité aux tribunaux pour contraindre les grandes entreprises à adapter leurs activités face à l'urgence climatique. Les enjeux sont quant à eux énormes pour Total Énergie. Conséquence pour la firme si elle perd, la cessation de nouveaux projets d'hydrocarbures, une réduction de la production de pétrole de 37% en 2030 et de 25% de celle du gaz à la même date.
Il ne fait pas bon être homosexuel au Sénégal, là nous sommes en Afrique. Le gouvernement réuni en conseil des ministres hier a modifié le code pénal datant de 1965. Ce texte vise spécifiquement a révisé l'article 319 de la loi en vue d'un durcissement significatif de la répression des actes dits contre nature avec un individu de son sexe. Avec la nouvelle loi, les homosexuels pourraient bientôt encourir 1 à 5 ans d'emprisonnement. Cette annonce intervient quelques jours après l'arrestation de 12 hommes, dont 2 célébrités locales et un journaliste accusé de transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui. Le test va être présenté à l'Assemblée nationale du pays très prochainement. Le record est déjà battu, mais ça continue. Aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, la Française Émilie Arop a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve du sprint en ski alpinisme cet après-midi. La discipline récemment ajoutée dans les épreuves des JO d'hiver nous fait remporter une autre médaille. Le multiple champion du monde, Thibaut Anselme, a lui aussi accédé au podium avec une médaille de bronze, cette fois-ci dans la même épreuve. Mise en examen pour homicide volontaire pour 7 suspects âgés de 20 à 26 ans dans l'affaire de la mort du militant identitaire Quentin Duranque. Les 7 hommes sont tous placés en détention provisoire, parmi eux l'assistant parlementaire Léfi Jacques et Eli Favreau. Le parquet vient d'annoncer l'ouverture d'une information judiciaire criminelle auprès de 3 juges d'instruction. Plusieurs personnes restent toutefois à identifier selon le procureur. 2 des 7 personnes présentées au juge d'instruction ont des antécédents judiciaires. Elles ont déjà été condamnées pour violence et usage de stupéfiants, bien sûr, pour l'une et pour des faits de vol et de port d'armes pour d'autres. Tous les suspects contestent l'intention d'homicide. Et la mort de Quentin Duranque a aussi des conséquences à Rennes. Une manifestation, je cite, pacifiste et citoyenne est organisée en son honneur par le JARC, influenceur d'extrême droite et ancien videur de la boîte de nuit de 1988. Elle aurait lieu ce samedi à 11h, place de la République. L'ensemble des candidats et candidates aux municipales sont appelés à répondre présents. Une contre-manifestation est organisée en réponse par l'AG Antifa de Rennes. Elle indique à, je cite, « ne pas laisser Rennes aux fascistes ». L'Assemblée générale a lieu à l'Université Rennes 2 en ce moment. Héloïse, tu nous parlais de plus en ouverture d'émission. Et oui, elle n'est pas prête d'arrêter de tomber. La vie crue a placé la vilaine amont, la vilaine médiane et la sèche en vigilance orange. Après les fortes pluies enregistrées à Rennes, entre 15 et 20 mm d'eau sont déjà tombées et de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines heures. La vilaine pourrait atteindre un pic demain soir avec des risques de débordement dans plusieurs secteurs, notamment Sergent Maginot, Alphonse Guérin et la confluence. Caves et parkings souterrains sont particulièrement exposés. La ville de Rennes, dans un communiqué de presse, appelle à la plus grande vigilance et annonce la distribution dès demain matin de sacs de sable et de parpaings pour les riverains et riveraines concernés.
Merci beaucoup Ulrich, c'était une première pour toi dans 6 heures avant minuit. J'espère qu'on entendra ta voix bientôt.
Bien sûr.
Encore.
Bien sûr.
À bientôt alors.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
On passe à l'interview et ce soir, c'est Elisa qui s'y colle. Qui sont tes invités ce soir, Elisa ?
Mes invités ce soir sont Matteo Justel, Théo Le Balli et Jaden Le Guay. Ils portent tous les 3 un pull et un pantalon large.
À la mode.
Exactement. Pour qu'ils nous présentent leur projet de trail urbain à Rennes, le Try in Fact. L'événement se déroulera prochainement à Rennes 2. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est le Try in Fact ?
Alors du coup, Try in Fact, c'est un événement qui est organisé par un groupe de 13 étudiants. Donc 13 étudiants de L3 STAPS en management du sport. Et du coup, c'est un événement qui est organisé sur toute l'année par les 13 étudiants et un enseignant qui nous supervise. Et du coup, c'est un événement de trail universitaire qui est destiné aux étudiants et au personnel de toutes les universités de Rennes et qui donne une préparation sur toute l'année avec des suivis hebdomadaires gérés par les équipes et les différents pôles de ce groupe.
D'accord. Et donc, dans ce trail, quels sont les cours qui sont proposés et quelles sont leurs longueurs ?
Donc on a deux types de courses qui sont mises en place, organisées par nous. Donc la première course, c'est une course qui est individuelle de 10 km. Donc on réalise en tout, donc au sein du campus, c'est une boucle de 2,5 km. Donc cette première course donc individuelle de 10 km. Et la deuxième course, c'est une course par équipe, donc avec plusieurs relais et également de 10 km.
Et elles auront eu lieu quand et où ?
C'est le mercredi 11 mars prochain sur le campus de Villejean à Rennes.
Et donc, quels sont les horaires de départ ?
Ça va partir à 17h, la première course, et la deuxième va s'en suivre dans la foulée juste après.
Et s'il y a deux courses, est-ce qu'il est possible de participer aux deux courses ou pas ?
Non, il ne sera pas possible de participer. Comme les courses, justement, sont... il y a départ, on va dire, entre 5 et 10 minutes d'intervalle. Donc, celui qui veut partir en individuel juste avant, il ne pourra pas se permettre de faire la deuxième course non plus.
Et donc, l'inscription à ces courses est-elle payante ? Puisque...
Alors, oui, du coup, elle est payante. En individuel, du coup, pour le 10 km en solo, ça sera 5€ par personne. Alors que pour le relais, c'est 3€ par personne. Donc le relais, ça peut être à 2, 3 ou 4.
D'accord. Donc, comment fait-on pour s'inscrire à ces courses ?
Alors, on a un compte Instagram qui s'appelle TrainFac, que vous pouvez retrouver partout sur Instagram. Et sur ce compte, il y a un lien Helloasso, qui permet de s'inscrire. Autrement, on a mis aussi quelques affiches dans l'enceinte de Villejean pour pouvoir s'inscrire. Il y a juste un QR code à scanner.
D'accord. Et je suppose que les inscriptions sont déjà ouvertes ?
Oui.
Et donc, vous attendez combien de participants à peu près, les participantes ?
On a une jauge maximale à 300 participants.
D'accord. Est-ce qu'il y a des prix qui sont prévus pour les podiums des deux courses ou c'est juste participatif ?
Oui, donc il y a... C'est pas vraiment des prix, mais c'est des lots en fonction de nos différents partenaires. Donc on a environ 10 partenaires qui sont affiliés à notre événement. Et du coup, ça nous permet de proposer des lots et de récompenser les gagnants de chaque course, donc la course individuelle et la course en relais. Et on va également mettre en place une tombola avec des lots à gagner.
Est-ce que pendant cette course, donc si elle fait plus de 10 km, est-ce qu'il y aura un ravitaillement en eau ou en nourriture gratuit ?
Oui, du coup, on met en place un ravitaillement d'eau et de nourriture gratuit, justement, avec un de nos partenaires qui fournira de sorte des fruits, des oranges, des bananes. Et également, bah, là, on parle de la labellisation Dioren qu'on a. Du coup, c'est une labellisation qui est affiliée à notre événement et qui... Et du coup, on met en place beaucoup d'impacts environnementaux juste au sein de notre événement. Donc notamment, oui, avec le ravitaillement que vous parlez, justement, ravitaillement d'eau qu'on gère justement avec une fontaine à eau pour réduire justement les bouteilles en plastique que les coureurs pourront. Du coup, nous ne serons pas obligés de ramener comme on fournit déjà l'eau. Et du coup, aussi un ravitaillement de nourriture qui sera mis en place du coup, sur la course.
Et donc, vous avez mentionné le label Dioren, mais ça veut dire quoi, Dioren ? C'est quoi, concrètement ?
Du coup, Dioren, en fait, c'est une charte qui est affiliée à l'événement depuis l'année dernière, il me semble. Et donc, en gros, ça nous engage à produire un événement au maximum éco-responsable. Donc, c'est-à-dire que nous, on s'engage auprès de Dioren et auprès de Olipinfac. Donc, Olipinfac, c'est la grande association qui regroupe divers événements pour les universités de Rennes 2. Et donc, du coup, on s'engage auprès de Olipinfac et de Dioren à produire un événement éco-responsable. Et en contrepartie, on a cette labellisation.
Et donc, ce label, vous l'avez obtenu, mais est-ce qu'il est difficile à obtenir ?
En fait, on était déjà affilié à ce label, enfin l'événement était déjà affilié l'année dernière, donc du coup on a juste recontacté et réalisé un rendez-vous avec les responsables du Rennes pour pouvoir permettre d'avoir à nouveau cette labellisation.
Est-ce que vous comptez réorganiser cet événement dans le futur ou pas ?
Alors du coup ça sera pas nous personnellement, à moins qu'on redouble, pardon. Donc c'est les étudiants de L3 Management du Sport qui ont l'occasion de créer cet événement. Donc cette année c'est notre tour pour la troisième édition de cette course. Mais pour la quatrième du coup on espère qu'elle sera refaite par d'autres étudiants aussi motivés que nous.
D'accord. Et en fait parmi le groupe de 13 étudiants, qui a eu l'idée principale, qui a eu l'idée en premier de faire ce trail ?
Alors on a un prof référent et ce trail du coup a déjà été organisé deux fois dans le passé. Donc c'est un événement... On n'a pas pu avoir beaucoup de créativité parce que du coup on suit un peu ce qu'il faut faire, mais en tout cas on essaie d'apporter un peu notre patte à l'événement en tout cas, en ajoutant notamment des nouveaux bâtiments, un nouveau tracé pour le parcours.
Et donc qui est responsable de quoi en fait ? Parce que dans un trail il y a beaucoup de choses à organiser.
Alors personnellement moi je suis au niveau du pôle logistique, Alors que Mathéo, toi tu es...
Donc moi je suis au pôle communication.
Et moi je suis au pôle administratif. Et il faut savoir du coup qu'au début on s'est répartis en plusieurs pôles. Donc là on est chacun représentant, on fait partie d'un pôle en général, mais il peut y avoir aussi des... Enfin il y a pôle financier, pôle partenariat, du coup logistique, communication et administratif, et le pôle de labellisation du Rennes aussi. Et juste, j'aimerais juste rajouter que l'année dernière, du coup, le projet n'a pas eu lieu. Enfin, l'événement n'a pas eu lieu. Donc, c'est aussi nous, bah, une forme de motivation. On se dit, bah, cette année, on a envie qu'il aboutisse. Et du coup, on est aussi poussé par notre prof responsable, du coup, qui veut lui aussi, bien évidemment, que ce projet aboutisse.
Et donc, comment est-ce que ça s'organise en travail concrètement? Parce qu'avec tous ces pôles, comment c'est possible de créer un événement comme ça qui rassemblera autant de personnes?
Bah nous, on a des cours, on a démarré à partir de mi-septembre, on va dire. Et on s'est organisé, du coup, on a chacun des missions au sein des pôles. Et donc, nous, étudiants, on arrive ici, du coup, bah, forcément, notre prof principal notre prof qui nous accompagne nous a aidés, nous a dirigés vers les missions qu'on avait à faire. Et après, si on contacte plusieurs personnes, ça dépend du pôle, hein, mais... Moi, par exemple, j'ai contacté pas mal de personnes pour le projet, ça soit du coup niveau administratif, logistique, par exemple. Après, là, c'est tout au long de l'année, on a différentes missions, on aide après les autres pôles si on n'a pas forcément grand-chose à faire. Et voilà, pour mener après au mieux là, le projet qui va se dérouler dans 2-3 semaines.
Donc, c'est un assez gros projet. Et donc, quels moyens sont mis en place pour organiser ce projet?
Du coup, en fait, c'est en fait l'association, du coup, enfin l'association qui encadre tous les événements. Donc il y a plusieurs groupes au sein de notre filière management qui proposent d'autres événements. Et du coup, l'association globale, elle donne un budget à peu près à chaque événement qui nous permet de l'organiser. Et du coup, nous ensuite, on doit réussir à pouvoir produire cet événement dans le budget donné et ensuite réussir à, pourquoi pas, faire des bénéfices aussi qui reviendront à l'association.
D'accord. Donc, même si ce n'est pas vous qui avez eu cette idée de travail urbain à la base, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Rennes 2 a été choisi spécifiquement pour ce travail?
Parce que le campus de Rennes 2 est vraiment magnifique pour le coup. Il y a beaucoup de bâtiments intéressants en tout cas. On passera notamment dans la présidence qui est quand même relativement emblématique pour ce campus, notamment aussi par la BU centrale, par une autre bibliothèque présente dans le bâtiment B ou encore dans le stade Robert Poirier. Donc, tous ces bâtiments font que le campus est intéressant parce que là c'est un trail, donc forcément il faut beaucoup de marge, beaucoup de dénivelé pour faire plaisir aux coureurs. Et aussi parce que personnellement, en tout cas, je trouve que le campus est quand même très joli, très beau, très beaucoup de verdure, donc c'est très sympa.
Merci. Je me demandais d'où est venue cette idée de trail, parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre activité sportive concrètement. Enfin...
Bah, le trail, c'est une discipline que nous, on a en deuxième semestre de notre troisième année, du coup. Et on a eu un choix au début d'année de soit faire un événement autour du trail ou soit un événement autour de la danse. Donc notre groupe qu'on avait, notre groupe, ça a dû se scinder en deux avec ceux qui préfèrent aller dans la danse ou ceux qui préfèrent aller au trail. Et du coup, nous, on a décidé d'aller dans le trail parce que c'est la discipline qui nous intéressait le plus. Et après le trail, nous était du coup, c'est nous qui avons décidé de faire une course, et donc le trail était donc forcément la course qu'on a dû mettre en place. C'est un peu imposé, quoi.
D'accord. Et vous avez mentionné au début que le trail avait pour public les étudiants de Rennes 2 et les professeurs et les personnels. Mais est-ce qu'il est possible de s'inscrire au trail sans être étudiant ni personnel?
Pour le moment, non, c'est pas possible. C'est vraiment un trail qui est destiné à tous les étudiants et personnels de Rennes. Donc, c'est toutes les universités de Rennes. Et ça va permettre justement de rassembler toutes ces personnes autour d'un événement qui est quand même assez populaire comme le trail. Et pas, pour l'instant, c'est pas ouvert à tous parce qu'il y a déjà pas mal de trails dans la région et même en France qui se développent de plus en plus. Donc, nous, le but, c'est vraiment de réduire juste aux personnels et aux étudiants parce que c'est un trail un peu particulier avec le passage dans les bâtiments et c'est pas vraiment un trail où le but c'est pas vraiment de réaliser un chrono ou c'est pas vraiment une grosse compétition, c'est vraiment un événement pour rassembler.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous donc à Rennes 2 le mercredi 11 mars à 17h et donc vous pouvez vous inscrire via leur Instagram et via le lien Hello Asso.
Super, merci beaucoup.
On peut rappeler le nom de l'Instagram?
Trail in Fac.
Trail in Fac.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Une petite virgule, s'il vous plaît, la technique. Merci.
6 heures avant minuit.
On enchaîne avec la chronique et ce soir, c'est une nouvelle chronique. C'est une chronique sport. On reste dans le même thème. Ça s'appelle Sueur et Conviction et c'est signé Baptiste.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Sueur et Conviction, nous allons nous diriger vers le milieu du judo français. Qui, aujourd'hui, est en grande partie représenté par une personne, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler ici, l'unique, le seul, Teddy Riner. C'est simple, on le voit partout, que ce soit sur des plateaux télé, en publicité et même sur grand écran. Une notoriété qui s'explique notamment par le fait qu'il est l'un des athlètes les plus titrés de ce sport, 11 fois champion du monde et plusieurs médailles d'or, à son compteur notamment. Pourtant, aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons parler d'une toute autre personne qui marque, elle aussi de son empreinte, le monde du judo français. Je parle bien évidemment de la combattante Clarisse Agbegnéniou. C'est à Rennes, en automne 92, que Clarisse fait face à son premier combat. Non pas sur un tatami, mais à la maternité. Née prématurément avec son frère jumeau, elle a dû être réanimée dès sa naissance, puis placée en couveuse pendant plus de 4 semaines. Dès ses premiers jours de vie, elle a dû se battre pour survivre. Une détermination qui la guide encore aujourd'hui. Enfant, Clarisse est une femme, une jeune fille, qui déborde d'énergie. Et pour canaliser toute cette énergie, ses parents décident de l'inscrire au judo à l'âge de 9 ans. Les personnes qui l'entourent voient au travers des années, des compétitions, une judokate prometteuse et une façon de combattre digne des plus grandes. Plus tard, elle intégrera l'INSEP, l'Institut National du Sport, qui forme les champions tricolores, promis à une belle carrière. Et quelle carrière! Surnommée la reine des tatamis, Clarisse Agbegnéniou ne laisse rien à ses concurrentes et surdomine sa catégorie des moins 63 kg depuis plus de 10 ans. Avec ni plus ni moins que 3 médailles d'or, 5 podiums aux Jeux Olympiques, 7 titres de championne du monde, 6 titres de championne d'Europe, 2 titres de championne de France, et j'en passe. Une carrière remplie de succès qui fait d'elle une légende de cette discipline en possédant l'un des palmarès les plus étoffés et importants du sport féminin français. Une figure donc du judo français, mais surtout une femme engagée. Tournons-nous maintenant non plus sur l'athlète, mais sur la personne qu'est Clarisse Agbegnéniou et les causes qu'elle défend. Forte de son expérience personnelle depuis 2019, la championne est marraine et ambassadrice de l'association SOS Préma, dédiée aux familles d'enfants prématurés hospitalisés qui accompagnent et rassurent les parents ainsi que le nourrisson sur différents plans, que ce soit médical, psychologique ou social. Durant cette période particulièrement éprouvante. Et au travers de cette association, elle veut aussi montrer qu'en chaque enfant, une âme de championne ou champion sommeille. L'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport est un sujet qui lui tient fortement à cœur à notre judokate olympique. Marraine de l'association Sport Féminin Toujours, elle utilise sa voix et notoriété pour défendre une cause simple, donner aux sportives la place qu'elles méritent. Plus de visibilité médiatique, plus de reconnaissance et surtout moins d'écart de salaire avec leurs homologues masculins. Un combat qui peut sembler évident et pourtant loin d'être gagné. Mais Clarisse ne s'arrête pas là. Elle a aussi brisé un tabou encore silencieux dans le sport de haut niveau, le retour à la compétition après une maternité. Car derrière les médailles et les podiums, il y a des réalités plus dures. Des sportives devenues mères, souvent livrées à elles-mêmes, peu d'accompagnement physique, peu de soutien psychologique et parfois peu de sécurité financière pour reprendre sereinement leur carrière. Clarisse le rappelle, devenir mère ne devrait jamais être un frein à la performance. Au contraire, elle devrait être accompagnée, respectée et soutenue. Clarisse ne se contente pas d'accumuler les médailles, elle transforme ses combats personnels en combats collectifs. Pour les enfants nés trop tôt, pour les femmes trop peu visibles, pour les sportives trop peu accompagnées. Et si, finalement, sa plus belle victoire n'était pas sur un tatami, mais dans l'élan qu'elle donne à toute une génération. Une génération de jeunes filles, de mères, d'athlètes qui pourront concilier compétition, carrière et maternité. Le combat continue pour Clarisse Agbegnéniou. Et cette fois, il dépasse largement les limites du dojo.
C'était la chronique Sueur et Conviction de Baptiste. Merci Baptiste, à une prochaine. On va écouter le répondeur.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Oui, bonsoir, c'est Sylviane. Nous sommes jeudi. Je suis en train de réécouter votre émission du mercredi 11 février de cette année, pendant le festival, où moi-même j'étais bénévole et je faisais l'accueil des invités. Et c'est complètement dingue de vous réécouter et d'écouter ce que j'ai vu en direct. Moi, je vous réécoute aujourd'hui, trois jours après, l'interview de Marie Latimore, que j'ai raccompagnée, j'ai fait runner quand elle était à Antipode. L'interview de Richard Dumas, pas facile, Richard. Bien, passionnant en plus. L'interview de Cuba et Alaska, dont j'ai vu le documentaire, c'est magnifique. Et ma chère Anne Lehnhardt, qui a répondu en qualité de responsable artistique de l'association Clair Obscur. Vraiment, je profite de ce message vocal pour suggérer aux auditeurs qui n'ont pas écouté cette émission de mercredi 11 février, 6 heures avant minuit, de réécouter. C'est passionnant et moi, ça me fait sourire parce que je voyais ces gens-là, je les rencontrais pendant le festival et vous étiez là à accueillir leurs paroles sur les ondes. Bravo pour le travail que vous avez fait. Bravo, vraiment. Et puis, l'expo de Richard Dumas y est toujours. Je voulais signaler aussi dans ce message la sortie du film Planète, qui va sortir le 11 mars, que j'ai vu en avant-première, et dont j'ai accueilli la réalisatrice, Momoko Seto, et le charmant scénariste, très intelligent scénariste, passionnant tous les deux. Lui, c'est Alain Lérac. Bravo encore à Radio Syllabe, je me plais vraiment à vos côtés. Au revoir à tout le monde.
Et ça nous plaît de t'avoir parmi nous, chère Sylviane. Merci beaucoup pour ton message. Et oui, l'émission spéciale Travelling est en ligne sur notre site, donc n'hésitez pas à aller la réécouter. Faites comme Sylviane, laissez-nous un message vocal 02 30 96 25 35. On vous écoute. Merci Maud pour la technique. Pas d'émission la semaine prochaine, c'est les vacances. On se retrouve le lundi 2 mars, si je ne me trompe pas. À bientôt.
Si.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.